Ben écoutez, merci beaucoup d'être là. C'est une session, c'est la deuxième session des colloques Europe de la santé. On avait fait une première session hier qui avait été tout à fait intéressante sur tout ce qui concernait en particulier la définition de l'Europe et du rôle des différents professionnels. Et aujourd'hui, on va travailler sur un concept qui est extrêmement important et bizarrement tout à fait ignoré, qui est celui de One Health, qui est un concept qui date des années 2000. J'anime une table ronde au CHAM dernièrement justement sur cette question, sur la question de One Health et sur la question du rôle des institutions. Ce qui m'avait vraiment surpris dans la préparation de cette réunion et de cette table ronde, c'est que en interrogeant des présidents de syndicats professionnels, et là je renvoie un peu à Johan qui est dans l'association de l'ANEMF. Le président de syndicat, sachant qu'il allait parler sur le One Health, s'est aperçu qu'en fin de compte, quand il évoquait le concept, personne ne connaissait le concept de One Health. C'est un concept important des années 2000, qui a pour objectif, et on va en parler avec Bernard Charpentier, qui est le président de l'Académie de médecine. Merci Bernard, vraiment, d'être présent pour nous éclairer sur cette question, mais c'est un concept qui a pour objectif de rassembler les différentes santé, que ce soit la santé humaine, la santé environnementale, la santé animale, autour d'une même cause, en partant du principe que si l'une de ces santé est malade, la planète est malade, et que donc ça devrait être une espèce de ligne de conduite, de fil rouge que devrait partager l'ensemble, au moins l'ensemble des acteurs de santé, et on s'aperçoit qu'on a une carence de connaissances autour de ce concept qui est tout à fait majeur. Alors Bernard, je te passe tout de suite la parole en premier. Merci encore une fois d'être avec nous. Je connais ta puissance de frappe pour nous expliquer les concepts et surtout ton enthousiasme pour pouvoir les faire partager. Donc il y a du travail et avec grand plaisir pour t'écouter.
Merci beaucoup Olivier, merci à tous. Premièrement, je voulais vous dire que je ne suis pas spécialiste je ne suis pas vétérinaire, hein, personne n'est parfait. Par contre, j'ai eu à m'occuper du concept One Health en Europe parce que je voudrais bien sûr redire que je suis président de l'Académie de médecine en ce moment, mais j'étais président de la FEAM, qui est la Federation of European Academy of Medicine, donc 21 académies européennes. Et puis quand Jean-Claude Juncker, et s'agissant devant ça devant John Ryan, en 2015, a souhaité avoir un Advisory Council, a été créé ce qu'on appelle SAPIA, Science Advice for Policy by European Academies, qui regroupait 5 réseaux européens, 110 académies, 15 000 académiciens. Et ce SAPIA donc, a donné des conseils à la Commission européenne sur divers sujets qui étaient soit des top-down, soit des bottom-up. Et je crois qu'on a eu un bilan assez positif de ce qu'on pourrait appeler SAPIA 1. À l'époque, j'ai dû m'occuper de One Health parce qu'effectivement, c'est un concept, d'abord, juste pour te corriger, Olivier, qui remonte en fait à 1984 parce que c'est Calvin Schwab qui a défini ça en 84 et qui a bien dit une seule santé humaine avec une santé animale. Ça a été revu en 2004 par une espèce de convention qui s'appelait World Convention Society One Health et puis ensuite, c'est reparti surtout en 2008 dans une 6e conférence internationale avec l'OMS, la FAO, UNICEF, la Banque mondiale, et qui a fait un cadre de référence. Et ce cadre de référence, c'est que dans One Health, les trois branches de One Health, c'était dans ce contexte en hein, 2008, Olivier, hein, c'était un, la vigilance contre les maladies infectieuses émergentes, donc de l'épidémiologie, et on savait que depuis 1970, il y avait eu 300 maladies émergentes qui étaient apparues dans le monde entier, donc il fallait effectivement faire quelque chose. Deuxièmement, et on savait qu'il y a des franchissements de barrières d'espèces depuis très longtemps avec un système triangulaire. Il y a toujours un réservoir qui est un animal et généralement des fois la chauve-souris, puis un autre intermédiaire, puis enfin l'homme qui était plus ou moins malade au bout de la chaîne. Donc on connaissait ça pour Ebola, bien sûr on va connaître ça pour Covid-19. Et je répète que pour le concept One Health, il y avait donc vigilance des maladies infectieuses. Deuxièmement, lutte contre l'antibiorésistance. Ça, c'était important parce qu'en Europe ou dans le monde, je ne me souviens plus, on bouffe 60 000 tonnes d'antibiotiques, la moitié chez les animaux, la moitié chez les humains. Donc, il y a une hyperconsommation d'antibiothérapie, et je pense que John Ryan en dira un mot tout à l'heure, mais c'est vrai que ce problème d'antibiorésistance, c'est un problème mondial extrêmement angoissant, avec de moins en moins d'antibiotiques satisfaisants et des maladies de plus en plus difficiles à contrôler par antibiotiques. Puis troisièmement, il y a un pan qui était laissé un peu à l'abandon, qui était en fait tout ce qui favorise dans l'environnement les perturbations, c'est-à-dire en fait changement climatique, altération de la biodiversité, déforestation, etc. Et ça, c'était dans One Health un troisième concept qui aboutit en fait à ce que One Health s'est élargi sur santé globale, parce qu'à ce moment-là, il y a ces santé environnementale. En effet, on est ce qu'on mange, on mange de la biologie végétale. Et moi, j'ai toujours trouvé que mettre la biologie végétale à l'extérieur, c'est pas bon. Il faut mélanger biologie végétale, animale et humaine. Les trois sont extrêmement liés. Et donc, je pense que maintenant, il faut parler en santé globale, qui est un tout petit peu différent de One Health. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que ce concept a fait fleurir, parce que même les Français qui ne prononcent pas bien l'anglais, qui n'aiment pas l'anglais, sont tous après One Health, One Health, One Health. Et donc, ça prouve que c'est comme Lustucru ou Renault Peugeot. C'est des mots qui, entre guillemets, font plaisir aux gens. Alors, il y a eu ensuite, est-ce que les objectifs ont été atteints? Il y a eu effectivement une réunion FAO, OIE et puis WHO, je ne sais plus, dans les années 80, dans les années 2000, qui avait fait un système qui s'appelait Global Early Warning System, le GLEWS, qui a plus ou moins marché, et c'était un cadre en fait de mesures préventives. Puis ensuite, il y a eu ce qu'on appelle un Global Anti-Microbial Resistance Surveillance System, un GLAS. En Europe, il y a eu un réseau de laboratoires européens sous la forme d'un joint programme. Donc, pour les zoonoses, je pense que John Ryan va en parler. Chez les Français, il y a eu un système qui s'appelait Eco-Antibio pour essayer de diminuer donc la consommation antibiotique. Et ça traitait les deux premiers sujets, mais pas le troisième. Donc, le troisième n'est pas traité ou très mal traité. Donc, en fait, le petit échec de One Health, ça a été pas assez de démarches intégratives, des modèles de gestion sanitaire écologique qui n'étaient pas identiques dans les pays de l'Union. Et effectivement, quand j'étais dans le cadre du SAPPEA, c'était surtout la Roumanie qui s'occupait de One Health, parce qu'il y avait un vétérinaire très puissant, très important, qui s'appelait Nicolae Manolescu, et qui avait fondé une université à la fois de vétérinaire et de médecine, donc un joint entre les formations médicales et vétérinaires. Et qui avait pris ce concept de One Health vraiment au sérieux, enfin, avec même une forme mondiale, puisqu'il invitait beaucoup d'invités de US, et que Manolescu avait touché des fonds européens importants. Et je pense qu'il a été un des leaders, un des porteurs en fait, de ce concept One Health, que même les médecins ne connaissaient pas, hein, Olivier. Hein. Les gens n'arrivaient pas à intégrer le fait que, malgré tout, 75% des maladies infectieuses, parasitaires, etc., viennent des animaux. Ils ne l'avaient pas encore bien intégré. Donc, l'avantage, c'est que il a fait fête de phare en Europe. Nous, on l'a invité plusieurs fois. Il m'a invité à Bucarest au moins 400 fois quand j'étais président de la FEAM. Effectivement, j'étais absolument séduit par cette interface. Grosso modo, médecine, pharma, agriculture, veto et sciences. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Pour la première fois, on intégrait les différentes disciplines dans ce cadre-là. Alors, pour ce qui est de la France, il y a eu la création d'un haut conseil d'une seule santé au journal officiel de 10 novembre 2020, je crois. Il y a une déclaration des chefs d'État qui était publiée dans Le Monde, avec le président Macron qui avait donc publié une déclaration. Et puis, si mes sources sont bonnes, il y a eu aussi une déclaration de la FAO, de l'OIE et de l'OMS sur donc un rapport. Grosso modo, là encore, de mise en alerte, donc dans le cadre, c'était avant la COVID, d'alerte infectieuse. Alors moi, j'aimerais juste peut-être à ce moment-là reprendre sur le plan européen, ce que quand j'étais aux affaires, trois ou quatre choses, et peut-être que John Ryan pourrait m'arrêter si je dis des bêtises, mais premièrement, il a fallu renforcer en Europe le CDC, hein, qui s'appelle European Center for Disease and Prevention and Control. Donc on a en Europe un ECDC. Alors, les gens peuvent se plaindre en disant qu'il n'est pas assez réactif, etc. Mais au moins, il y a eu un renforcement de ce mandat. Deuxièmement, il y a eu une action, je ne sais pas où on est très bien, mais je me souviens qu'il y avait une action qui était en fait sur les cross-border threats, donc les menaces à travers les frontières. Il y avait un rapport qui devait être fait par deux députés européens, qui étaient Valérie Trier-Lenoir et Sara Cerdas du Portugal. Et puis, d'autre part, renforcer l'European Medicine Agency, l'EMA, qui, vous savez, est l'agence de régulation européenne pour le médicament et pour le vaccin. Donc, c'était trois actions qui me semblaient de base pour l'Europe. Et je pense qu'il y a eu deux choses supplémentaires. Alors, je vais en parler, c'est ERA, comme on dit en anglais, et puis ma fascination pour Barda. Barda, c'est le système américain. Alors, pour ERA, donc, c'est un nouveau lancement. Donc, ça s'appelle Health Emergency and Preparedness Response Authority, donc une nouvelle régulation pour être le plus près possible de ces problèmes comme la COVID, etc. Donc, une chose réactive immédiatement. Moi, pour ERA, donc, le lancement est fait en 2021. Normalement, il devrait être efficace en 2022. Ça pose plusieurs problèmes. Premièrement, je pense qu'il faut que ça soit très, très ciblé en matière d'efficacité pour cette nouvelle agence. Il faut sûrement qu'il y ait une législation qui soit écrite pour bien définir le cadre de ERA. Il faut qu'elle soit totalement dépendante des États, parce qu'en Europe, il y a un problème, c'est qu'il n'y a pas d'Europe de la santé. Chacun des États est assis sur sa santé et veut rien lâcher à l'Europe. Hein. Il faut qu'elle soit collaborative, il faut qu'elle soit globale. Alors, tout ça, c'est un peu une petite imitation, quelque part, de Barda. Alors, je pense que les gens connaissent Barda, probablement. Mais Barda, premièrement, la naissance de Barda, c'est 2006, hein, c'est-à-dire il y a 15 ans. Et c'est en fait, Barda, ça veut dire Biomedical Advance and Research and. Le D, je me souviens plus. Development Authority. Donc Barda, c'est une coordination d'une urgence, entre guillemets, pour les menaces terroristes, hein, quand on sait comme ça, les menaces chimiques, biologiques, radiologiques, nucléaires, etc. Et Barda, le gros avantage, c'est que c'est une partie, une collaboration, non seulement avec le CDC, donc le Disease Control, mais aussi avec la FDA, avec le NIH, avec le département de défense. Ça, c'est très, très important. Avec le département des Veteran Affairs, donc les anciens combattants, le département d'agriculture et le département de Homeland Security, grosso modo le contrôle aux frontières. Donc, vous voyez déjà que Barda est assis sur un nombre de partenaires qui sont très, très puissants. La deuxième chose, c'est que dans Barda, c'était la dotation. Si mes sources sont bonnes, en 2021, Barda a touché 1,4 milliard de dollars, donc ce qui est pas rien. Et troisièmement, ce qui est très important, c'est que Barda a la possibilité d'avoir une transversale avec la pharma. Et ça s'appelle Operation Warp Speed, OWS. Et ça permet une latéralisation avec la pharma à toute vitesse. Et je sais que, par exemple, Barda, directement ou indirectement, a injecté 11 milliards de dollars à toute vitesse, ce qui a permis effectivement aux États-Unis, même avec un président américain qui ne croyait pas au Covid, qui bouffait grâce au génie français, donc de l'hydroxychloroquine, et que malgré un président qui n'y croyait pas, le système américain s'est mis en branle, et comme vous avez vu, ça a été très rapide, très efficace, vaccination, les tests, etc. Et tout ça a été, grosso modo, quand même dû à Barda. Donc on pourrait estimer que le bilan, moi je pense que le bilan Barda est un bilan très positif pour une population aux États-Unis qui a à peu près 330-335 millions d'habitants. L'Europe fait 350 millions d'habitants. Donc, on est à peu près de taille identique en matière de population à gérer. Et je vais peut-être terminer ma petite harangue, si c'est, je ne veux pas être trop long, mais je vais plaider pour quelque chose. Moi, je suis fasciné parce que j'ai été formé en partie aussi aux États-Unis par le NIH. Et moi, je me suis toujours demandé, effectivement, en Europe, quand on regarde ce qui s'est passé sur la COVID, les confinements étaient différents, les tests ont été différents, la gestion des populations était différente, la vaccination était différente. Il n'y avait pas d'homogénéité dans les 27 pays de l'Union. Et j'ai trouvé ça un peu désespérant parce que les virus, ils s'arrêtent pas aux frontières, ils s'arrêtent pas avec un visa, ils passent la barrière en disant voilà, j'ai mon visa, je rentre en Allemagne. Hein. Les virus, c'est à toute vitesse entre Shanghai et Paris ou Shanghai et Londres, c'est 10 heures d'avion, basta, et on est là. Hein. Et donc, globalement, je trouve un peu dommage qu'on n'ait pas une vraie Europe de la santé au sens NIH du terme. Donc, moi, je plaide beaucoup pour un IIH. Un European Institute of Health, qui permettrait à ce moment-là d'avoir une meilleure réactivité et surtout une mise en chantier des 27 pays de l'Union. beaucoup plus rapidement que les politiques nationales. Et les politiques nationales, il ne faut pas oublier, et ça je suis passé plusieurs fois devant le Parlement français, je pense que dans tous les pays c'est comme ça, c'est quand on prend une mesure, quelle qu'elle soit, vaccination, isolement, confinement, c'est est-ce qu'elle est socialement acceptable? Alors vous voyez en France qu'en Guyane, les anti-vax bloquent les dépôts d'essence et empêchent les gens de circuler. Vous dites que quand même, il y a un problème. Moi, je voulais vous dire que d'autre part, j'ai eu 90 menaces de mort en tant que praticien de médecine à cause de la vaccination et le fait qu'on ait sorti un communiqué demandant est-ce que la vaccination soit obligatoire en France à partir de 5 ans. Donc, quand un homme politique vous parle toujours d'acceptabilité sociale ou sociétale de prise de décision sanitaire, c'est quand même compliqué parce qu'effectivement, des décisions courageuses à avoir. Et le président de la République Macron a eu des décisions très courageuses hein, pour le pass sanitaire, qui était le seul moyen effectivement de, un peu de pousser les gens à se vacciner, et alors qu'on avait des résultats de vaccination tout à fait remarquables. Moi, je pense que ce qu'on a appris de la Covid, c'est qu'en moins d'un an, des petites start-up en Allemagne, aux États-Unis, grâce à l'argent de la Big Pharma, sont capables de faire un vaccin ARN magnifique en moins d'un an. Souvenez-vous, il faut 15 ans, 20 ans pour des vaccins, etc. Donc là, il y a eu quand même une évolution fantastique de la possibilité d'avoir la recherche from bench to bedside, depuis le laboratoire jusqu'au malade. Et là, la réactivité mondiale a été superbe pour cette vaccination. Moi, j'en suis encore baba. Hein. J'ai quand même connu des mises au point de vaccins qui duraient des années et des années. Donc, je voulais replaider pour ça. Puis, dernière chose, et je terminerai par là. Je reste toujours l'emplacement français à la FEHAM, qui, je répète, c'est 21 académies de médecine. Et on a décidé avec la FEHAM de faire une action One Health, parce qu'on avait entendu dire que le président de la République française, pour la présidence française 2022, comme vous le savez, dans les présidences européennes qui durent 6 mois, normalement le pays hôte définit des mots-clés. Par exemple, en Estonie, c'était Digital State. Vous savez que l'Estonie, c'est un pays où il n'y a plus de papier, où tout est dans son mobile, sa caisse de sécu, le fait qu'il a des facteurs de risque, qu'il est trop gros, qu'il fume, etc. Et par exemple, j'avais été aussi en Bulgarie, où à l'époque, c'était l'Europe de migration étudiantine. Grosso modo, c'était la mobilité des étudiants en Europe. Donc, normalement, le président de la République de France va prendre la présidence le 1er janvier 2022 et il aurait déclaré à plusieurs reprises que One Health faisait partie des mots-clés. Et normalement, dans ces mots-clés-là, il aurait cité One Health ou du moins santé globale. Alors, il ne l'a pas répété, c'est vrai qu'on attendait un peu ça parce que dans l'action de la FEHAM, on voulait avoir 3 académies de France, c'est-à-dire médecine, pharma, veto, plus ou moins agriculture, travaillant sur One Health et ayant un congrès en même temps que la réunion des politiques, il y a toujours une réunion politique en Europe, quand les 27 pays de l'Union viennent chez le pays hôte. Et de façon contemporaine, c'est ce qui s'est passé à Vilnius, c'est ce qui s'est passé à Sofia. Vous avez en même temps la réunion académique et la réunion des politiques, et avec un petit mélange bilatéral. Et c'est un peu dommage qu'en France, on n'ait toujours pas eu le feu vert de savoir si One Health est vraiment dans le concept du président Macron pour la présidence française 2022. Parce que nous, on a fait une demande de fonds aussi, ce qu'on appelle l'IAP, c'est Inter-Academy Partnership, qui est la grosse coupole mondiale des académies dans le monde, 180 académies, et grosso modo, qui a une résonance mondiale. Et à ce moment-là, on aurait aimé pousser ce concept santé globale. Bon, qui est plus petit, qui est plus grand que One Health, mais au stade mondial, cette IAP, que j'aime bien, qui est très efficace, qui est basée à Trieste, en Italie, et qui aurait permis de répercuter cela, avec un travail, effectivement, d'expansion de One Health. Alors, la dernière chose, et je terminerai par là, c'est la prochaine pandémie, parce que si on arrive à Covid, il y en aura une derrière, obligatoire. Donc, il faudrait qu'on soit un peu plus préparé pour la prochaine qu'on l'a été pour la Covid. Ceci dit, à chaque fois, on découvre un vaccin. Le virus, qui est quand même marrant, c'est que c'est le papier dans Science il y a 3 semaines. Ebola, le SARS, là, actuellement, c'est une mosaïque. Hein. Ce n'est pas un virus, c'est une mosaïque de bouts de virus. Parce que les chauves-souris se baladent entre le Cambodge, le Laos, la Chine, etc. Elles vont de caverne en caverne. Elles se repassent les uns les autres un bout de virus. Puis d'un coup, le virus qui émerge est une virus mosaïque qui est extrêmement efficace, qui est très mutant à toute vitesse, parce que c'est le seul moyen de survie, c'est de muter. Et donc, c'est intéressant de voir que ce virus est une mosaïque. Donc, la prochaine fois, il y aura sûrement un virus, probablement plus qu'une bactérie, etc. Mais il faudrait qu'on soit plus prêt pour la prochaine fois, en particulier pour les Français, les masques. Hein. On n'avait pas de masques en janvier 2020. Les tests à mettre au point rapidement, qu'on n'avait pas au début. Les confinements qui ont été très difficiles à obtenir de la société, parce que c'est très, très difficile à imposer la société, du moins dans le système français. C'est facile dans des pays, en Chine, hein, ils ont confiné en février ou janvier 2020 50 millions de types dans la région de Wuhan, mais en Chine, on rigole pas, hein. Confinement, quand la police dit confinement, le Parti communiste, si vous sortez de chez vous, vous retrouvez en camp, hein, donc ça drop. Donc c'est un vrai problème, et moi ce que je pète beaucoup, c'est vraiment, for the next, pour la prochaine pandémie, c'est il faut se renforcer, il faut qu'on soit prêt, sans ça, il y aura de nouveau des morts. Voilà, merci encore à vous tous. M'excuse, j'ai été un peu violent, mais bon, c'est ma nature.
Non, tu as été passionné, c'est très bien, et surtout tu nous as donné beaucoup d'explications sur l'origine et l'historique du concept, ce qui explique peut-être un certain nombre de difficultés qu'on rencontre à l'heure actuelle.
Juste dernière chose,
C'est
Olivier. Pour Barda, où il y a quand même, moi je pense que le département de la défense est très important aux États-Unis, on n'a pas de département de défense en Europe. Donc pour imiter ERA à Barda, il y a quand même un trou dans la raquette qui est important. Hein. Je dis ça devant John Ryan, je ne sais pas quel est son avis. Mais effectivement, en Europe, on n'a pas encore d'armée intégrée, hein, et puis peut-être pas prête de l'être. Hein.
Non, je pense pas. Bon, on passera la parole à John justement pour répondre à toutes ces questions tout à l'heure. Là, je voudrais passer la parole à Martin Houdard. Donc, Martin est étudiant en médecine et vice-président de l'université Grenoble-Alpes et également membre du think tank l'Europe de la Santé, donc think tank d'association de jeunes professionnels qui s'intéressent à ces questions justement à ces questions de santé au niveau européen. Martin, c'est
Merci.
quoi fondamentalement pour toi la problématique que rencontrent les étudiants et les professionnels à appréhender ces concepts et est-ce que d'une certaine manière, je vais être un peu provocateur, est-ce que vous savez ce qu'il va falloir faire demain? Est-ce que vous avez une idée de la politique générale et de son cadrage du concept de One Health?
Merci beaucoup Olivier et merci beaucoup pour cette invitation à participer à cette table ronde. Bonjour à toutes et à tous. Je pense, à travers l'angle étudiant en santé, il y a un principal problème pour moi et qui en fait découler plusieurs autres. C'est la question du cloisonnement. Aujourd'hui, un étudiant en santé est amené à collaborer avec d'autres professionnels de santé uniquement une fois qu'il est diplômé, une fois qu'il est dans son exercice professionnel. Mais on n'a pas encore cette logique de collaboration qui existe vraiment en amont et qui en fait pose un problème d'interculturalité, on va dire, entre les professions et donc qui pose un problème pour aborder ces concepts un petit peu globaux. Et j'irai même un peu plus loin, c'est-à-dire qu'à l'heure aujourd'hui où les universités travaillent sur des programmes de formation interdisciplinaire, que ce soit sur le plan de la formation ou de la recherche, on a souvent encore du mal à faire participer les étudiants dans ces programmes-là. On a des étudiants d'écoles d'ingénieurs, d'écoles de commerce, d'écoles de sciences politiques, de philosophie qui participent à des programmes ensemble, mais les étudiants en santé, elles, eux, restent cloisonnés dans leur coin. Et on a même du mal à faire des programmes interfacultés, faculté de médecine, faculté de pharmacie, par exemple, ce qui montre quand même la grosse difficulté là-dessus. Et donc, pour aborder un concept aussi large que celui du One Health, avec des questions environnementales, des questions de santé animale et de santé humaine, mais de santé humaine dans sa globalité complète, ça pose un vrai problème. Il y a un autre niveau de cloisonnement, je pense, qui est important quand, lorsqu'on compare aussi avec d'autres filières de formation, c'est l'enjeu de l'internationalisation. Il y a des programmes Erasmus, bien sûr, en santé, hein, en médecine, les étudiants en médecine, en pharmacie peuvent partir à l'étranger, mais ça reste très marginal comparé à ce qu'on peut voir dans d'autres formations. Et je pense qu'on ne peut pas aborder un concept comme celui-là sans avoir fait l'expérience de l'international et sans avoir fait l'expérience de voir ce qui se passe ailleurs et la manière d'aborder ces questions ailleurs, parce que c'est un enjeu qui est global et qui dépasse largement le cadre français. Aujourd'hui, un étudiant en santé, en général, a du mal à connaître enfin, il n'est même pas vraiment complètement formé sur l'enjeu de son système de santé dans son pays. Et il y a un véritable enjeu à connaître ce qui se passe ailleurs. Mais ce que je pense même d'autant plus important, c'est que le concept One Health soit inclus dans les études de santé, ça serait une chose, mais le fait que ça reste l'apanage des professions de santé, je pense, serait une grossière erreur. Il y a un véritable enjeu, en fait, à que ce soit un concept qui soit partagé par toutes les filières de formation, Parce qu'en fait, c'est un enjeu qui doit concerner tous ceux qui ont une intervention sur l'environnement. Et à l'heure d'aujourd'hui, dans un contexte globalisé, chaque professionnel a un impact sur son environnement. Et son environnement dans le sens sa définition la plus large, hein, j'entends. Et du coup, je pense que c'est un concept. De la même manière qu'aujourd'hui, on a ce terme un peu galvanisé de RSE, responsabilité sociétale et environnementale, dans tous les sens, où on essaie d'inclure des concepts de transition écologique, de lutte contre les discriminations. Je pense que l'enjeu de la santé sous tous ses angles doit être partagé, doit être inclus dans ces logiques et doit être partagé ensuite derrière dans toutes les formations pour que tous les acteurs qui ont un impact sur l'environnement à terme y aient au moins été sensibilisés, j'aimerais vous dire, même y aient été formés d'une certaine manière. Et je pense que là-dessus, je reviens à l'idée de départ, l'expérience de collaboration interprofessionnelle qui n'ont pas l'habitude et qui n'auront pas forcément l'habitude de travailler ensemble ensuite a une vraie valeur pour que chacun puisse s'acculturer un petit peu à ces notions-là. Et puis, plus globalement, je pense qu'il y a un vrai enjeu de société à ce que les jeunes puissent se positionner sur ce concept. On est aujourd'hui dans une situation où les jeunes ont tendance à s'éloigner un petit peu de la politique, ou en tout cas, on a un certain rejet de la logique de politique politicienne. En même temps, on voit qu'il y a un fort militantisme sur les questions écologiques qui est très fort, mais ce qui est très étonnant, alors que ce militantisme sur les questions écologiques est particulièrement fort, la notion de santé qui est associée, et à travers là, en fait, ce concept de One Health, est totalement absent, quasiment totalement absent, on le voit, on retrouve dans quelques conférences, mais on n'a pas du tout de positionnement sur ce concept-là. Et je pense que ça vient d'une situation, c'est que les jeunes rejettent un petit peu la participation politique aujourd'hui, les États et l'Europe sont dans une logique de consultation des jeunes, ou en tout cas l'affiche en disant on souhaite consulter les jeunes, on souhaite avoir l'avis des jeunes, mais il n'y a pas une logique de participation organisée pour que la parole des jeunes se libère, ou en tout cas puisse faire part de leurs propositions, de leurs projets. L'exemple de la prochaine présidence française de l'Union européenne et de la conférence sur l'avenir de l'Europe montre que c'est pareil, il y a cette logique de consultation, mais on n'a pas vraiment organisé une participation des jeunes, en tout cas en dehors des concepts les plus basiques, c'est-à-dire qu'on les limite à la participation sur l'avenir de l'enseignement supérieur ou sur l'avenir des questions de jeunesse, mais on n'implique pas les jeunes sur les vraies questions de société qui dépassent ça plus largement. Donc je pense qu'il y a un enjeu à organiser cette participation. Je pense qu'il y a des enjeux de conférences nationales, de doper la participation des étudiants et des jeunes en général. Mais je pense que pour les faire vraiment participer, il faut les mettre en responsabilité. On n'a pas de réelle participation si la personne met pas sa peau en jeu, entre guillemets. Et donc, je pense que si on n'arrive pas à faire en sorte que des jeunes puissent être en situation de responsabilité, en situation de rendre des comptes sur des questions, c'est-à-dire qu'on leur donne des clés pour faire des propositions, pour construire des actions innovantes dans le champ de la formation, par exemple, mais dans le champ aussi des concepts nationaux, hein, ce qu'on évoque au niveau de l'Europe, qui était évoqué par le professeur précédemment. Je pense que si on arrive à mettre des jeunes professionnels en situation d'être en responsabilité sur ces questions-là, ils peuvent être moteurs du changement. Mais si on ne les met pas en responsabilité, s'ils sont toujours simplement consultants, participants, sondés, on n'arrivera jamais à enclencher une transformation. Et je pense que si on n'a pas les jeunes pour faire une transformation, on n'arrivera pas à aller plus loin. Voilà.
Tu es en mute, Olivier.
Oui, je te remercie parce que ton analyse est passionnante. Non seulement elle est passionnante parce qu'elle est très étayée, et je trouve que les quatre grands freins que tu as cités sont frappés au coin du non seulement du bon sens, mais de la clairvoyance. ce qui est dramatique d'ailleurs, c'est que ça fait des années qu'on en parle. Je me souviens on organisait dans les années 2010-2015, on organisait les états généraux de la santé en région, et déjà on se disait, je ferai toujours d'une réflexion d'un président de syndicat, je crois que c'était l'ANEP à l'époque, qui disait, mais comment voulez-vous qu'on puisse penser à une santé qui soit une santé cohérente à partir du moment où moi je ne sais même pas ce que fait un étudiant en médecine, et qu'un étudiant en médecine ne sait même pas en quoi consiste mon métier, et on ne parle même pas des autres professionnels de santé. Donc ce point-là est un point tout à fait majeur. Est-ce qu'il faut toujours une formation qui soit une formation descendante, on va dire magistrale, universitaire, ou est-ce que quelque part il ne peut pas y avoir d'autres formes de participation ou de prise en compte de cette formation par d'autres structures, par exemple des cycles de formation faits par l'Europe de la santé ou des choses comme ça.
Si, je pense qu'il y a des formes un peu innovantes à inventer, soit en agissant par des acteurs extérieurs ou des collectifs extérieurs, et je pense que ça, il y a une vraie impulsion à donner, c'est comment on arrive à impliquer tous les cercles de réflexion, parce qu'il y a un enjeu derrière ça qui est de mêler à la fois le jeune, on va dire avec sa vision naïve qui a une vraie plus-value, et l'apport du professionnel. Ça, on arrive à mal à le faire en dehors du contexte universitaire, mais du coup, comme on disait, très descendant du professeur qui récite sa leçon, entre guillemets. Mais on a du mal à mixer cette approche du professionnel en exercice et du jeune pour qu'il puisse faire des propositions. Donc, dans la logique Europe de la santé, ça pourrait être très intéressant d'aller là-dessus. Je pense qu'il y a aussi des choses à travailler sur l'aspect un petit peu émergence. Comment des jeunes professionnels, dans une logique un petit peu interdisciplinaire, et pareil, je pense qu'il faut casser le cadre santé qu'un étudiant en médecine, en pharmacie, et qu'un étudiant en ingénieur, par exemple, mais vraiment, il y a un enjeu à casser ces limites, puissent eux aussi essayer de définir un sujet sur lequel travailler, et je pense que c'est ce qui permettra que les jeunes s'approprient eux-mêmes les questions de One Health ou de choses comme ça, parce que naturellement, ils vont s'intéresser à ces questions. Le sujet écologique est omniprésent, donc c'est des questions qui émergeront tout seuls. Et si la démarche vient d'eux, en termes de proposition du sujet, et ensuite d'une démarche d'aller à l'extérieur, aller chercher des professionnels, aller chercher des collectifs, c'est comme ça qu'on permettra que ces jeunes s'approprient ce sujet et puissent ensuite l'impliquer tout au long de leur carrière, parce qu'ils se seront appropriés. Il y aura une forme d'adhésion qui se développera et on arrivera à le faire uniquement si ça émerge d'eux-mêmes et si on n'est pas dans une logique de descendance. Le cours descendant sur les questions de One Health, je pense, auront toutes leurs limites. Donc, c'est un sujet, une proposition intéressante, je pense.
Bon, eh bien, il va falloir qu'on creuse la question. Je vais passer tout de suite la parole à Johan Lacote. Johan, vous êtes ingénieur de recherche pour l'initiative conjointe EU-JEMRE à l'INSERM. Et vous travaillez plus spécifiquement sur tout ce qui concerne l'antibiorésistance. Comment vous voyez la mise en place de quelque chose qui soit encore une fois fédérateur? Parce qu'on sait très bien à l'heure actuelle qu'il y a une mission antibiorésistance à la DGS. Enfin, on sait. Nous, on le sait parce qu'on travaille dans l'organisation du système de santé. Donc, on sait très bien que... Voilà, mais c'est un nombre assez restreint de personnes savent qu'il y a une mission de lutte contre l'antibiorésistance, à côté de Jérôme Salomon à la DGS. Quand on en discute encore une fois sur le terrain, alors là, ça pose pas de problème puisque personne ne la connaît. Donc on est tranquille et on ne sait même pas d'ailleurs à quoi ça sert. C'est-à-dire que savoir qu'il y a une lutte contre l'antibiorésistance est quelque chose qui frappe les esprits un peu éclairés, mais quand vous êtes médecin prescripteur sur le terrain et qu'une mère de famille vous force un peu à sur le fait qu'elle voudrait une couverture antibiotique pour une pathologie virale pour ses gamins, vous avez un mal fou à résister et lui expliquer le concept d'antibiorésistance, ce n'est pas quelque chose de simple. Comment vous voyez l'état des lieux actuels et comment vous voyez la façon dont on pourrait faire bouger les choses? Ce qui est intéressant, c'est comment ça peut bouger, pas simplement comment on va laisser les choses en place avec quelques experts qui vont s'en occuper.
Donc, merci Olivier, donc, très vaste question. Avant toute chose, j'aimerais un petit peu recontextualiser les choses. Pourquoi parler d'antibiorésistance quand on parle de One Health? Donc ça a été un petit peu évoqué par Monsieur Charpentier en introduction. Mais effectivement, l'antibiorésistance, c'est l'un des avatars ou un des étendards majeurs de la lutte contre ce phénomène One Health. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on parle donc de micro-organismes qui, comme ça a été évoqué en introduction, ne connaissent aucune frontière. Un micro-organisme, une bactérie ne va pas s'arrêter à une frontière, va pouvoir circuler librement en quelques heures d'un pays à un autre. Et au-delà de ça, les bactéries ont une faculté très particulière d'échanger leur matériel génétique, leur ADN, et d'échanger des gènes de résistance. Donc on va avoir très rapidement une propagation rapide des résistances entre les bactéries, et ensuite une propagation de ces bactéries résistantes à l'ensemble de territoires dispersés. Donc effectivement, pour lutter efficacement contre l'antibiorésistance, il faut clairement une approche globale, mondiale, et une approche transversale qui mêle médecine humaine, médecine vétérinaire et médecine environnementale. Donc effectivement, on est en plein dans le One Health. Et je rejoins effectivement tout à fait aussi M. Charpentier, qui disait tout à l'heure qu'effectivement le One Health c'est très à la mode, mais on en parle beaucoup. Mais la difficulté à l'heure actuelle, c'est finalement de le mettre en pratique. Et pourquoi c'est difficile à mettre en pratique? Finalement, ça a été aussi évoqué par Martin juste avant. Eh bien, tout simplement parce qu'historiquement, les acteurs de la médecine humaine, de la médecine vétérinaire et les acteurs de l'environnement ont travaillé de façon séparée, de façon cloisonnée, avec des visions bien distinctes, des langages différents. Ils ont tous des représentations de l'antibiorésistance différentes. Ils n'ont pas les mêmes besoins, ils n'ont pas les mêmes attentes. Et donc forcément, ça pose des difficultés. Comment rassembler tous ces acteurs autour de problématiques communes quand effectivement ils ne parlent pas le même langage? Donc la difficulté majeure du One Health aujourd'hui, à mon sens, c'est celle-ci. C'est comment justement promouvoir des échanges interprofessionnels, comme disait Martin juste avant. Et donc ça, effectivement, c'est tout l'enjeu de ce combat-là. Et à mon sens, l'Union européenne, donc effectivement, s'est bien saisie de ces enjeux et a mis en place des outils que moi je trouve assez intéressants et assez pertinents. Ce sont les fameuses joint actions, effectivement, qui sont des actions conjointes où on va aller chercher des compétences dans différents pays et rassembler donc toutes ces compétences autour d'une même table et autour d'une problématique commune. Donc effectivement, je pense que John Ryan pourra en parler un petit peu plus en détail après des différentes joint actions One Health qui ont été lancées ces dernières années. Donc moi, effectivement, j'ai participé à la joint action antibiorésistance, l'IUJAMRAI, mentionné donc juste avant par Olivier. Et donc effectivement, cet outil de joint action nous a permis donc de rassembler autour d'une même table 44 partenaires européens, donc tous avec des compétences diverses, issues donc du monde humain, du monde animal. Alors on avait malheureusement peu d'acteurs du monde environnemental dans cette joint action. Et finalement, tous ensemble, on a pris le temps donc de réfléchir à des problématiques communes, à des enjeux communs, donc effectivement des enjeux de contrôler les infections, hein, contrôler la dispersion des bactéries résistantes, les bonnes pratiques de prescription antibiotique. Il y avait aussi derrière des enjeux de recherche et d'innovation, comment supporter la recherche en antibiorésistance. Également des enjeux de sensibilisation. Donc je vous rejoins aussi, Olivier, quand vous disiez tout à l'heure qu'effectivement il y a finalement beaucoup de choses en place, mais la population n'est pas forcément sensible à toutes ces actions, à tout ce travail-là. Je pense que beaucoup de gens ne comprennent pas bien le concept de la résistance aux antibiotiques, ont du mal à appréhender cette dissémination et ces échanges de résistance entre les bactéries, entre les réservoirs. Et donc, il y a des efforts à faire sur ces questions de sensibilisation. Et effectivement, dans le cadre de la Joint Action Antibiorésistance, on a notamment travaillé au développement d'un symbole pour représenter l'antibiorésistance, un petit peu à l'instar du ruban pour le VIH. Donc, on a une nécessité d'avoir des actions et d'essayer de sensibiliser effectivement le grand public à ces questions One Health. Donc ça effectivement, c'est un enjeu. Et donc, je reviens sur l'enjeu aussi des échanges interprofessionnels pour souligner aussi une initiative qui vient tout juste d'être lancée en France, qui est le réseau PROMISE, qui est donc un méta-réseau professionnel. Donc c'est exactement ce que mentionnait Martin juste avant, donc qui a vocation dans le champ de l'antibiorésistance à rassembler autour d'une même table tous les acteurs français professionnels engagés dans la lutte contre l'antibiorésistance. Donc qu'est-ce que ça veut dire tous les acteurs professionnels engagés dans la lutte contre l'antibiorésistance? Ça va être effectivement toutes les missions nationales de surveillance en santé humaine, les missions de surveillance en santé animale, toutes les agences de surveillance environnementale, également rassemblées autour d'une même table des associations donc de pharmaciens, de médecins, des acteurs engagés dans des actions de vulgarisation et de sensibilisation côté humain, côté vétérinaire, côté environnemental. Et voilà, essayer de travailler aux synergies entre ces acteurs, réaliser des partages de connaissances, de compétences, des échanges de bonnes pratiques entre tous ces acteurs pour finalement créer une véritable dynamique One Health. Il y a aussi, donc je rejoins ce que Martin disait, il y a aussi une nécessité de formation. Comment effectivement former au One Health donc dans le cadre de ce projet donc national à l'heure actuelle, on réfléchit effectivement avec plusieurs universités françaises à mettre en place un diplôme interuniversitaire qui permettrait donc à des jeunes acteurs déjà diplômés, donc ce serait de la formation continue, qui permettrait par exemple à un jeune médecin qui a cette envie d'approfondir ses connaissances sur le thème du One Health, d'aller chercher les connaissances dans cette formation qui aura été créée à partir aussi de l'input de tout ce réseau de professionnels issus des trois secteurs. Donc il y a effectivement plein d'enjeux dans ce concept One Health, et à mon sens, la réelle difficulté à l'heure actuelle, c'est encore l'implémentation. Comment mettre en pratique le One Health, et effectivement, on ne pourra pas y arriver tant qu'on n'aura pas mis autour d'une même table tous les acteurs du One Health, homme, animal, environnement, ensemble. Et effectivement, c'est possible au niveau local, c'est plus difficile à l'échelle nationale, et c'est évidemment encore plus difficile à l'échelle européenne. Mais vraiment, je pense que certains outils que John va mentionner après, comme les joint actions, sont des outils très pertinents pour faire ce travail.
Merci beaucoup, Johan, pour cette prise de position. Alors, John, ça me permet d'avoir une transition immédiate avec vous. Qu'est-ce qui est fait à l'heure actuelle par la Commission européenne ? Vraiment, merci d'être présent avec nous aujourd'hui, parce que vous voyez combien on a besoin d'incarner des concepts aussi importants qu'One Health, mais votre présence nous honore parce qu'on a aussi besoin d'incarner concrètement ce qu'est l'Europe et ce qu'est la DG Santé dont vous faites partie. Et c'est extrêmement important que l'Europe ne reste pas quelque chose, une simple idée, mais aussi une porteuse de projet avec des hommes et des femmes à sa tête pour nous montrer que les choses bougent et que on pourra engager les acteurs autour d'un certain nombre de choses qui sont très concrètes.
Et d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Et, je suis le directeur de la santé publique à la Direction générale de la santé à la Commission européenne. En fait, notre département de la Commission est un exemple d'une approche intégrée à la santé, parce que nous couvrons aussi bien la santé animale, la sécurité alimentaire, les produits de la santé, les produits pharmaceutiques, le sang, les organes, le tabac. C'est pas exactement un produit de la santé, mais bon, il y a une législation européenne assez forte en matière de contrôle du tabagisme. Et ainsi, les services de la santé transfrontaliers. Et puis, mon domaine, qui est le domaine de la santé publique. Et donc, tout ça est dans le cadre d'un département administratif uni. Ça fait qu'on est quand même obligé tous les jours de se côtoyer et de se parler et de savoir ce qui se passe du côté vétérinaire, du côté pharmaceutique, du côté de la santé publique. Je crois que c'est assez ennuyant parfois pour mes collègues vétérinaires d'écouter à longueur de journée les histoires de COVID, etc., de vaccination. Mais bon, moi, de mon côté, je suis assez ennuyé parfois d'écouter les histoires de grippe porcine, etc., etc. Donc, c'est juste pour vous illustrer un peu la réalité de la chose. C'est important, en fait, cette contact et cette connaissance mutuelle entre les collègues parce qu'on s'apprend. En travaillant ensemble, on regarde les approches des uns et des autres et on peut apprendre à différentes façons de faire et différentes approches. Donc, ce que je voulais dire, c'est que la santé intégrée est une approche qui est intégrée dans notre législation communautaire. Je crois que ça, c'est un point important. Nous avons la législation communautaire en matière de sécurité alimentaire, de santé animale, des produits pharmaceutiques, donc tout ce qui est médicaments pour les humains et pour les animaux, ainsi que la législation sur les menaces transfrontalières à la santé humaine. Donc ça, c'est notre arsenal législatif. Et dans tout cet arsenal législatif, on a pris soin de tenir compte d'une approche intégrée à la santé. Donc, lorsqu'on fait une législation, par exemple, récemment, sur les médicaments vétérinaires, donc l'usage de ces médicaments, et notamment les antibiotiques, mais aussi d'autres types de médicaments, on a pris soin de tenir compte des effets éventuels sur la santé humaine. Ce n'est pas seulement la santé des animaux qui compte, c'est aussi les effets secondaires sur la santé humaine. Et donc, il y a aussi des liens entre ces systèmes. Par exemple, une question très importante, c'est la surveillance. Cette législation a été adoptée par le Parlement et le Conseil européen à des étapes différentes. Et donc, ce qu'on est en train de faire actuellement, et ce qu'on a déjà fait d'ailleurs, c'est de faire une réadaptation de la législation rétrospective. Au lieu de modifier tous les règlements, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tenu compte des autres règlements dans la dernière modification. Ça fait que tous nos systèmes d'alerte électronique, tous nos systèmes de surveillance. Surveillance, c'est quelque chose qui se passe régulièrement, donc c'est plutôt statistique. Donc, la surveillance statistique, les systèmes d'alerte électronique, tous ces systèmes sont liés. Ça fait que de mon côté, du côté de la santé humaine, moi j'ai une vision de ce qui se passe aussi bien au niveau chimique, au niveau environnemental, au niveau santé animale, des problèmes avec les produits pharmaceutiques et avec les produits alimentaires. Et toutes ces alertes sont partagées. Si je reçois une alerte d'un État membre qui concerne un produit alimentaire ou quelqu'un qui est tombé malade à cause d'un produit alimentaire, je le partage immédiatement et automatiquement avec mes collègues qui s'occupent de la santé alimentaire, de la qualité des produits alimentaires, pour qu'ils puissent faire des recherches sur l'origine de cet événement. Donc, ça fait que, bien que les législations sont établies à des étapes différentes, ils ont des objectifs différents, des cibles différentes, des types de produits différents, couvrent des espèces différentes, ils sont quand même liés entre eux au niveau communautaire. Et parce qu'ils sont liés entre eux au niveau communautaire, ils sont liés entre eux au niveau national. Donc les autorités françaises, par exemple, qui s'occupent de la santé publique, ils ont accès à tous ces messages. Ils ne sont pas obligés d'avoir un lien vers le ministère de l'Agriculture ou vers le ministère de l'Environnement, parce qu'au département de la Santé en France, ils ont automatiquement accès à tous ces éléments. Deuxième chose, c'est la question de la gestion des événements. Et chaque législation communautaire a mis en place un ensemble des comités qui gèrent les événements. Et dans le domaine de la santé publique, nous avons un comité de sécurité sanitaire qui se réunit virtuellement pour l'instant, parce qu'évidemment, on ne peut pas emmener des gens dans un seul endroit. Donc, on se voit virtuellement. Mais donc, on est amené à discuter la réaction à des crises. Par exemple, hier, il y avait une alerte concernant l'Ebola au Congo. Donc, ça, c'est quelque chose qui est sur notre radar et sur lequel il faut voir, il faut surveiller la situation et voir si ça échappe au Congo. Donc, il me semble très important dans cette approche à la santé intégrée d'avoir une unité d'approche. Et je dirais que ça existe dans la législation communautaire, ça existe aussi au niveau international. Personne jusque-là a mentionné le pierre central de l'édifice, qui est le règlement sanitaire international de l'OMS. Pour moi, c'est un texte fondateur parce que je l'ai devant les yeux ici. Et ça décrit exactement ce que tout le monde a dit jusque-là, c'est qu'il y a un lien entre tous ces agents, ces sources de danger à la santé publique. Je regarde par exemple, c'est très bien écrit dans le document de l'OMS, les maladies à potentiel épidémique, donc qui donne par exemple la grippe aviaire, l'Ebola, etc. Les maladies transmises par les aliments, par l'alimentation, par les produits alimentaires, excusez-moi. Donc, il donne l'exemple de Creutzfeldt-Jakob, que les gens ont un peu oublié, mais c'était quand même une maladie dramatique. Les flambées accidentelles et délibérées, il ne faut pas oublier les événements délibérés non plus. Parce qu'on risque d'avoir de plus en plus de ce genre de cas à l'avenir. Donc, les accidents chimiques, qui ne sont pas à négliger. Les accidents radionucléaires, personne n'en a parlé. Et les catastrophes environnementales, avec les changements climatiques, avec les pollutions, etc. On est amené à avoir de plus en plus de ces événements. Donc, je suis à Luxembourg et je vis au milieu d'une tempête aujourd'hui. Donc, si vous entendez des bruits derrière, c'est à cause de ça. Donc, au niveau de l'OMS, au niveau de la communauté européenne, on a mis en place cette approche intégrée à la santé qui me semble extrêmement importante. Et Johan a parlé de son projet qui a été financé par la communauté européenne dans notre programme de santé publique, qui a mis ensemble tous les États membres pour travailler sur un seul projet. Et j'ai mis le lien dans le chat, je ne sais pas si vous pouvez l'ouvrir. Mais en fait, c'était piloté par la France, parce que la France a quand même une grande voix en matière de résistance antimicrobienne. Et donc, on essaie d'utiliser les moyens financiers de la communauté, tous les programmes de recherche, les programmes de santé publique, etc., pour promouvoir une approche intégrée à la santé telle qu'elle est décrite dans la législation. Parce que c'est inutile d'avoir quelque chose qui est écrit dans la loi, mais qui n'est pas applicable à cause des moyens au niveau national. Donc, on essaie de fixer un cadre On n'impose jamais un moyen de travailler aux États membres. C'est aux États membres, par exemple en Allemagne, en Italie, en France, dans d'autres pays, il y a un système régional de santé. Donc, c'est extrêmement difficile pour l'Union européenne de fixer exactement les moyens d'application. On doit tenir compte des conditions locales. Mais on a fixé des objectifs, on a fixé un système de surveillance, de reporting, etc., etc. Mais c'est aux États membres. Et donc, on utilise les moyens financiers des budgets communautaires pour promouvoir une approche intégrée. Quelques-uns entre vous ont parlé de l'importance de se parler entre les professions de la santé. Il me semble aussi que c'est important. Je nie pas ça, mais je dis que c'est aussi important d'avoir des systèmes intégrés. Je décris le système de surveillance intégré au niveau de notre législation, mais aussi le problème des laboratoires, par exemple. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les... Et on a vu ça avec COVID actuellement, dans certains cas, on a transformé le laboratoire qui était d'usage vétérinaire en usage humain. C'était déjà le cas dans plusieurs États membres. Il y avait cette possibilité de, d'utiliser les laboratoires pour les deux. Donc, cette interface entre la santé animale, humaine, environnementale, etc., etc., c'est quelque chose qui est aussi structurel, je dirais. Et chacun ne doit pas garder son paquet d'argent et ne pas coopérer avec les autres par peur de perdre un peu son budget. C'est ça souvent la réalité aussi au niveau national, que les budgets qui sont établis pour les universités, pour les laboratoires, pour les systèmes de surveillance sont individuels et on ne fait pas la promotion de cette intégration, en fait, par le moyen du budget déjà. Donc, j'ai décrit un peu la législation communautaire qui est très variée et qui a toujours la même approche santé intégrée. J'ai aussi décrit les fondations de l'approche mondiale au sein du règlement sanitaire international. J'ai aussi parlé de nos moyens budgétaires, donc dans le programme de recherche communautaire Horizon Europe et le programme de santé publique. Mais aussi, on a des agences communautaires qui peuvent contribuer. Il y a l'agence de sécurité alimentaire à Parma qui vérifie toutes les chaînes alimentaires. On a l'agence de médicaments qui est située à Amsterdam qui est responsable aussi bien des produits pharmaceutiques à usage humain ou animal. Et troisièmement, on a l'agence pour les contrôles de maladies transmissibles qui est basée à Stockholm. Donc, avec ces trois agences, on a aussi des liens. Ils ont des responsabilités propres, mais ils ont aussi la responsabilité de se parler. Et le meilleur exemple que je peux donner, c'est au sein de notre réseau d'agences. Moi, j'ai personnellement, dans toute ma carrière, j'ai jamais parlé avec l'agence de sécurité aérienne à Cologne, mais j'étais obligé de le faire dans le cadre de notre pandémie parce que les transports aériens étaient vraiment un vecteur de transmission. Et donc, c'était les spécialistes, ils avaient tous les spécialistes sur la ventilation dans les avions, etc. Donc, je suis devenu un expert en ventilation dans les avions et de la protection des passagers, mais depuis quelques mois. Mais heureusement qu'on avait des moyens au sein de notre agence à Cologne pour profiter de cette expérience. Donc, dans la législation, dans l'approche internationale, dans le réseau d'agences communautaires, on a pris cette approche intégrée. Les gens se parlent, on fait des rapports intégrés. Johan a parlé de la résistance antimicrobienne. Les trois agences que j'ai citées font des rapports annuels sur la résistance antimicrobienne commun. Ils mettent les données ensemble et ils font une analyse commune. Je crois que ça, c'est un exemple de comment est-ce qu'on peut surveiller, analyser, publier et prévenir de façon unifiée et de ne pas avoir un rapport ici, un autre rapport par là qui contredit l'autre. Donc, on essaie d'avoir une vision d'ensemble. On a une possibilité maintenant de renforcer la situation de protection sanitaire en Europe. C'est le COVID. Et la Commission a fait des propositions de renforcement de la législation communautaire en matière de santé publique. J'ai mis le lien en français dans le chat, donc vous pouvez le lire en détail à votre aise. Mais effectivement, ça concerne les menaces transfrontalières. Parce qu'on avait dans le passé, depuis 2013, on avait l'obligation pour les États membres de de se communiquer les plans de préparation. Et je peux vous dire qu'une fois que la législation qui obligeait les États membres à faire ces plans de préparation, une fois que cette législation a été adoptée, on a commencé à mettre de l'eau dans le vin. En disant, ah, c'est trop compliqué, ça va nous coûter trop cher de faire ces rapports, on n'a pas besoin de ces indicateurs. Donc, on a commencé avec quelque chose d'extrêmement ambitieux et on a fini au bout de cette discussion avec quelque chose d'extrêmement léger. Et en plus, on a dit, ah non, c'est confidentiel parce qu'on ne peut pas mettre ça sur la place publique parce que, bon, il s'agit de la sécurité nationale, etc. Donc, on est arrivé avec des rapports superficiels. Et on est arrivé à un système d'autosurveillance, d'autocritique, et qui est allé nulle part, en fait. Et ce qu'on a proposé maintenant, c'est une surveillance beaucoup plus renforcée des menaces. On a proposé un système de préparation beaucoup plus renforcé avec des visites au niveau national aussi. Donc, on va venir visiter les lieux. Une transparence, on serait obligé de faire des rapports au ministre et au Parlement européen. Donc, tout ça sur la place publique. Et troisièmement, on a proposé un renforcement de la législation pour la coordination de la réponse. Actuellement, on travaille au bon gré des États membres en santé publique. Si les États membres décident de fermer les écoles, ils le font au niveau national. Et le fait que le voisin fait l'inverse nuit à la crédibilité, je dirais, de notre action. Donc, on essaie d'avoir une réponse beaucoup plus coordonnée à l'avenir. Actuellement, ces textes sont en discussion au sein du Conseil et du Parlement européen. Une forte résistance des États membres pour une forte résistance des pays membres au sein du Conseil pour aller plus loin et une forte poussée du Parlement européen de renforcer le système. Donc, on a le Parlement d'un côté qui tire vers un système plus uni et les États membres qui, comme Monsieur comme on a dit au début, c'est pour essayer de garder le pouvoir au niveau national, pour plein de raisons. On a parlé au début de cette fameuse agence de préparation et de réponse, HERA. C'est effectivement basé sur un modèle américain et c'est destiné à préparer les États membres pour une prochaine pandémie en identifiant la menace le plus tôt possible, en faisant la recherche, en promouvant, en finançant la recherche pour des produits pharmaceutiques qui peuvent répondre à cette menace. Et troisièmement, d'acheter à l'avance les produits nécessaires. Donc, identifier les menaces, développer les réponses pharmaceutiques et les acheter. Donc, on essaie, si vous voulez, de mettre en place un système permanent, un système durable qui reflète ce qu'on a fait l'année dernière pour développer les vaccins contre le COVID. Mais par rapport à d'autres types de menaces. Donc, cet système est actuellement en discussion. Encore une fois, il y a des questions de compétences. Est-ce que les États membres sont prêts à travailler ensemble sur ce genre de dossier? Je peux vous dire qu'à mon avis, une fois que le COVID est fini, l'intérêt va fondre comme la neige au soleil. Donc, il faut aller vite, il faut vraiment tirer les leçons de la pandémie avant que ça soit oublié et qu'on passe à autre chose. Et mon dernier mot, c'est par rapport à la situation internationale. J'ai parlé du règlement sanitaire international, mais on essaie actuellement de faire un traité international sur les pandémies. un traité international qui serait complémentaire au règlement sanitaire international qu'on ne touche pas. On ne touche pas parce que c'est toujours dangereux de les toucher, parce qu'il faut, faut le consensus entre tous les pays du monde, donc vous pouvez imaginer. Mais un traité pandémie qu'on est en train de lancer au sein de l'OMS le mois prochain, en novembre, serait un moyen de renforcer cette idée de santé intégrée, d'avoir un système de surveillance, d'avoir les moyens humains, financiers, logistiques en place au niveau national pour permettre de combattre ce type de menace qu'on vient de vivre, qu'on est en train de vivre actuellement, qui a des implications énormes sur l'économie, sur la santé, sur plein de choses. On est traumatisé par cette COVID, en fait. Hein. Voilà, donc ça, c'était mes quelques remarques et j'espère que j'ai pu donner quelques éléments de notre approche au niveau communautaire. Et merci encore pour l'invitation.
Non, mais c'est passionnant, vraiment. Merci, John, pour ces informations. On va passer, on va prendre quelques questions. N'hésitez pas à allumer vos petites mains jaunes, vous savez, dans votre barre d'outils, pour demander la parole. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut échanger. Vous avez très certainement besoin de précision, d'un certain nombre de... Donc, n'hésitez pas. Je ne sais pas qui veut poser la première question. Je vous préviens que si vous ne posez pas la première question, c'est moi qui vais la poser. Donc, bon, ben, je vais poser la première question. Et en fin de compte, je vous la pose à tous les quatre. Mais je vais peut-être commencer par John, parce que j'aime beaucoup cette allégorie qui dit qu'avec le recul de la menace de la COVID, on va perdre en termes de peur et donc de motivation et de d'engagement des États. Et moi, j'ai une question toute simple. C'est la France qui prend la présidence de l'Union européenne pour 6 mois à partir du 1er janvier 2022. John, qu'est-ce que vous attendez de la France? Qu'est-ce que vous attendez du président Macron pour faire en sorte que, justement, on continue peut-être cet effort de rassemblement et d'intégration dont vous venez nous parler? Sachez que, à titre, c'est une réflexion personnelle, mais je trouve ça absolument magnifique. Mais en ce qui concerne l'intégration, par exemple, des 3 directions générales du ministère de la Santé, elles ne font jamais un rapport commun sur quoi que ce soit. Donc, c'est un lourd travail et une grande mission à porter, quand même. Donc, qu'est-ce que vous attendez de la France?
Mais en fait, en ce qui concerne la présidence française, ça a toujours été un moment fort. Concernant la présidence, c'est un peu conduire une voiture pendant 6 mois. Et donc, il faut prendre la voiture telle qu'elle est. Et donc, il y a un certain nombre de dossiers législatifs qui sont sur la table. Et la France va conduire ces dossiers législatifs. Par exemple, la proposition sur le renforcement de la préparation pharmaceutique que j'ai décrit tout à l'heure, ça va certainement être discuté pendant la présidence française. Et la présidence française aurait la possibilité de mener la discussion et de mettre l'accent sur cette proposition, ainsi que toutes les autres parties de la proposition sur la sécurité sanitaire. La France a toujours soutenu une approche commune intégrée à la gestion de la crise. Et donc, je suppose que si on n'arrive pas à terminer ces dossiers avant décembre, je ne crois pas, la France aurait la possibilité de reprendre les dossiers et d'essayer de les conduire avec le Parlement pour une adoption pendant la présidence française. Il y a aussi la stratégie pharmaceutique de l'Union qui sera mise sur la table avant la fin de l'année, et donc ça va aussi tomber dans le règlement dans la présidence française. Donc ça, c'est deux exemples. Un troisième exemple que je donnerai, c'est le dossier cancer. Le professeur Tubiana a créé ou a impulsé le premier plan européen contre le cancer. Maintenant, On vient de lancer un deuxième plan communautaire contre le cancer. Et donc, la France va certainement soutenir ce plan avec des conférences, avec des débats au niveau national et européen. Et je note aussi que la France mène aussi une action contre la résistance antimicrobienne avec une grande conférence prévue en mois de mars. Donc, si vous voulez, il y a l'aspect suivi de législation qui est sur la table ou dans le pipeline. Il y a aussi l'aspect des dossiers prioritaires pour la France, la sécurité sanitaire en état, la législation pharmaceutique et la protection pharmaceutique. Et troisièmement, l'aspect de la résistance antimicrobienne et le cancer. Donc, ça, c'est un peu l'approche que la France prendra. Tout le programme de la présidence est déjà établi. Il suffit de cliquer sur Google et vous le retrouverez. C'est pas à moi de m'adresser aux présidences françaises, au président Macron. Tout est déjà dans le sac, si vous voulez.
Bernard, tu en attends quoi, toi, de la présidence française?
Je veux dire, elle tombe mal parce que le président Macron sera en campagne électorale, puisque vous savez qu'en France, on élit son roi. C'est quand même un pays particulier. En Angleterre, la reine est élue depuis très longtemps, des générations en générations. Donc, élire son roi, ça nécessite une campagne électorale extrêmement puissante, etc. Et je vois mal comment le président Macron, même travailleur comme il est, intelligent comme il est, puisse mener de bien en même temps des élections qui vont être en avril, une campagne électorale qui a déjà commencé et d'autre part, une présidence qui commence en janvier. Donc, je veux bien croire que des choses vont se passer, mais elles tombent mal. Elles tombent mal sur le tempo politique français, une fois de plus. Et comme c'est des campagnes longues, je pense qu'il aura la tête ailleurs. Alors, peut-être qu'il pourra déléguer effectivement beaucoup de choses à ses collaborateurs, en particulier Clément Beaune, qui est le secrétaire d'État qui s'occupe de l'Europe. Mais au sens impact du terme, par exemple, nous, dans les académies françaises, on attend les mots-clés qu'aurait dû donner le président Macron depuis déjà un an. D'autre part, la réunion des chefs d'État, peut-être que John Ryan le sait, mais la réunion des chefs d'État, qui est toujours une grand-messe de 4 jours dans une capitale, je crois que moi, je n'ai pas la date, personne n'a la date de cette réunion politique, hein, mais qui doit être dans les agendas des chefs d'État à l'heure actuelle. Donc, j'en attends beaucoup de choses sur le plan théorique. En pratique, et je reviens toujours à l'idée, mais je crois que ça a été dit par nos amis, parler c'est très bien, mais c'est l'implémentation qui est le plus important, et surtout en France, et le pragmatisme. Donc, j'attends beaucoup. Est-ce que, je pense que le président Macron aurait fait beaucoup s'il n'avait pas eu cette campagne électorale sur le dos, et il est obligé de la faire. Ça, c'est un problème. Je pense que c'est un mauvais tempo, mais c'est comme ça. Donc, j'attends beaucoup, j'espère ne pas être déçu. Et j'aurais aimé avoir les mots-clés parce qu'on aurait essayé de l'aider avec les académies de santé en Europe. Hein, on est quand même 3 ou 4. D'autre part, j'aurais aimé qu'on puisse donner effectivement un rapport académique lors de la présidence française en janvier février. Mais si vous nous donnez le mot-clé pour travailler, tu vois ce que je veux dire? On ne peut pas travailler au hasard sur quelque chose qui ne plairait pas. Medicine shortage in Europe est aussi quelque chose pour lequel le président Macron a beaucoup insisté, là, le défaut des problèmes de production de médicaments en Europe. Je crois que John Ryan connaît très très bien ce problème. Je pensais que c'était un mot-clé aussi, le président Macron, pour sa présidence. Je n'ai pas vu ressortir de nouveau clairement ça. Je n'ai pas vu clairement. Et en ce moment, la dernière chose, c'est que si vous essayez d'aller dans un ministère français, trouver les correspondants, les conseillers, etc., c'est fermé. Hein. Ils sont tous sur le vélo en ce moment, à pousser, à pédaler. Et je peux vous dire qu'ils ont la tête dans la campagne électorale, tous. Hein.
Martin, Johan, puis après, je passerai la parole à François de la NEPF.
Ce que j'attends à ce niveau-là, je pense que... Enfin, un élément que je voulais dire, c'est que le concept One Health ne peut pas s'aborder à l'échelle de la France ou à l'échelle de l'Europe, il est forcément à l'échelle mondiale. Et du coup, je pense que dans un contexte où on commence à prendre un peu le recul sur la crise, la prochaine présidence, c'est l'enjeu de pouvoir rassembler les États européens pour jouer un rôle au niveau international sur cette question. Parce qu'en fait, si on n'arrive pas à positionner l'Europe au niveau international sur cet enjeu, Je pense qu'on n'arrivera pas vraiment à tirer les leçons de la crise et je ne suis pas tout à fait optimiste là-dessus. Et d'autant plus dans le contexte où je pense qu'il y a un élément important, c'est que la France va prendre la présidence française de l'Europe. L'Académie de l'OMS s'est installée en France à Lyon et donc sur les enjeux de formation qu'il y a ensuite et l'enjeu d'emmener tout le monde, d'emmener l'Afrique, d'emmener l'Asie, d'emmener tous les États du monde, il faut qu'on arrive à transformer ça maintenant, même si l'Académie est pour dans quelques années. Donc moi, voilà, je pense qu'il y a un enjeu et je pense que la France peut avoir cette capacité à fédérer pour pouvoir avoir une volonté internationale à travers l'Europe, entraîner le monde entier. Mais bon, à voir ce qui sera réellement faisable.
Johan?
Alors je vais essayer d'être rapide, donc je rejoins tout ce qui a été dit avant. Donc j'espère qu'on aura une vision ou une approche globale, santé globale, effectivement, transversale. Et effectivement, alors bon, ça c'est ma casquette de microbiologiste qui parle, un volet antibiorésistance assez développé qui adressera des questions de fond, notamment effectivement la question de l'innovation. Donc on n'en a pas parlé, c'est un autre vaste débat. Comment créer de l'innovation dans le domaine de l'antibiorésistance qui est un secteur économique très particulier. Donc ça, j'espère qu'on aura des réponses durant les prochaines années et éventuellement durant la présidence française. Donc voilà, moi, c'est vraiment là-dessus que j'ai des attentes.
Merci. Olivier, je peux dire un petit mot, mais ça, qui est en fait un peu un problème franco-français. Si on prend le concept Quoinel, c'est des tuyaux. Les Français adorent les silos, comme vous dites, dans les systèmes anglo-saxons. Les vétérinaires en France sont formés dans des écoles, au nombre de 4, qui sont des bunkers, et dans lesquels il y a 2 ans de classe préparatoire, et en France, ils ne vont pas à l'université, ils vont dans les écoles vétérinaires. C'est des bunkers. Ces vétérinaires demandent à être plus ouverts aux autres. Moi, je leur propose un truc tout simple. On transforme l'école vétérinaire en UFR de santé, mis dans l'université. On fait un programme commun transversal avec la biologie, des facs de sciences, de facs de médecine, de facs de pharmacie, etc. Et puis, à ce moment-là, on perd le domaine surtout qui est très important, c'est-à-dire qu'ils sont du ressort du ministère de l'Agriculture. L'agriculture lâche les vétos, on les met dans l'enseignement supérieur et la recherche, comme l'université, comme nous tous. Et à ce moment-là, on résout le problème. Mais personne ne veut. Pourquoi? Parce que les vétos, dans un bunker, ils sont très contents. Il y a grosso modo un prof pour un étudiant, donc un encadrement que personne n'a. Deuxièmement, ils ont un fric relativement élevé par rapport au reste de l'humanité. Et troisièmement, ils sont dans l'entre-soi, c'est-à-dire qu'en fait, c'est maison Alfort, c'est machin, etc. Et dernièrement, l'agriculture en France ne veut pas lâcher ça parce qu'ils disent que comme ça, ils contrôlent la production agricole. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, de le dire, mais non, je crois qu'en Angleterre, c'est totalement différent. Dans les pays anglo-saxons, c'est tout à fait différent. Mais en France, ça explique très, très bien le truc. Il ne faut pas oublier que les écoles vétérinaires en France ont été faites par Napoléon parce que Napoléon avait besoin de chevaux pour envahir la Russie et l'Angleterre. Il a consommé 13 millions de chevaux en moins de 10 ans. Donc, il fallait que les chevaux, ils aillent bien. Donc, les vétérinaires, ça permettait aux bourrins d'aller jusqu'à Moscou sans avoir s'emboîter avec la patte qui est cassée. Mais il n'y a plus de chevaux maintenant. Donc, en fait, et d'autre part, chez les vétérinaires, 30% à 50 vétérinaires ne sont plus vétérinaires. Et 70% sont des vétérinaires dans le 16e arrondissement et à Neuilly pour s'occuper des animaux de compagnie. C'est pas là où il y a one else, hein. Donc, en fait, il y a un problème fondamental et il y aurait besoin d'un seul décret. Un seul. Changement de ministère, changement d'appellation, etc. Un décret, vous le verrez, il ne sortira jamais. Il y a tellement d'opposition à ça, ça ne marchera pas. Mais il y a un truc très simple, c'est un cliquet très simple, point à la ligne. C'est un exemple français typique des silos.
On en meurt tous les jours. François, une question, et je crois qu'à moins qu'il n'y ait pas d'autres questions, ce sera la dernière, puisqu'on a l'habitude de respecter absolument les horaires et les agendas. Ah ben, il y aura Julia après. François.
Oui, bonjour. François Dib, je suis étudiant en 4e année de pharmacie et je suis vice-président en charge des affaires européennes à l'ANEF, donc l'Association nationale des étudiants en pharmacie de France. Il a été évoqué le sujet de la mobilité et, dans cette table ronde, et il est clair que, en tout cas pour nous étudiants en pharmacie, il paraît évident que la lutte contre l'antibiorésistance ou d'autres problèmes de santé publique doit se faire au niveau européen, sinon mondial. C'est clair. Et pour un étudiant, il est vrai que le meilleur moyen d'appréhender sa vie, entre guillemets, européenne, est la mobilité internationale. Or, nous faisons face actuellement à un problème, c'est que pour les étudiants en santé, il est très difficile d'accéder à ces mobilités, comme il a été d'ailleurs évoqué dans le monde, de par un manque notamment d'uniformisation des cursus. Aussi, pensez-vous, messieurs, est-ce qu'il est réaliste d'envisager l'élaboration d'un programme de recherche interuniversitaire européen qui permettrait donc, d'une part, le transfert des connaissances, notamment en interprofessionnalité, et qui permettrait également du coup, une certaine forme d'uniformisation. Et est-ce que vous pensez que la France est-ce que la France est bien placée pour lancer une telle initiative?
C'est peut-être une question pour John, non?
Oui. Je peux peut-être répondre aussi comme l'ancien doyen et que j'ai bien connu. Cette tentative d'uniformiser des cursus est extrêmement difficile. Par exemple, la régulation européenne pour le deuxième cycle en médecine, c'est 5500 heures. Basta. Deuxièmement, en médecine, c'est 4 plus 2 égale 6. En Europe, c'est généralement 3 plus 2 égale 5. Donc déjà, ça pose problème. Troisièmement, il y a le problème du troisième cycle où la mobilité serait plus facile. Mais je suis d'accord avec l'étudiant là qui nous dit que c'est très, très compliqué cette mobilité en Europe pour les professions de santé, quelles qu'elles soient. D'abord, il faut trouver le support sac à dos, l'argent, etc. Deuxièmement, le programme qui fonctionne plus ou moins bien. Et puis troisièmement, il faut que ça soit une équivalence de diplôme. Parce que si vous allez 6 mois, 1 an à telle université étrangère, il faut que ça valide votre cursus, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, il devrait y avoir un effort considérable, effectivement, d'homogénéisation des cursus. Déjà, qu'il y a déjà le LMD, le 3-5-8, ça a déjà un progrès considérable parce qu'en Europe, la licence en 3 ans, le master en 5 ans et la thèse d'université en 8 ans, ça a déjà été, mais vous ne pouvez pas imaginer, hein, ce processus de Bologne, ça a mis 15 ans pour sortir. Personne ne voulait avoir ce 3-5-8. Déjà, 3-5-8, c'est déjà un gros progrès. Donc, on peut espérer que nos gouvernants, imaginons que l'Europe, c'est fantastique, il n'y a pas eu de guerre entre nous depuis 1945, alors que l'Allemagne, on se tapait dessus tous les 30 ans. Donc, c'est déjà un gros progrès. Donc, imaginez, si vous voulez, une mobilité supérieure. Moi, je pense que ça permet en plus l'esprit européen. C'est plus on voyage, plus on voit d'autres pays, plus on est européen et plus on est dans l'intégration européenne. Donc, il faut pousser ça. Et ça, c'est toujours pareil, ça dépend pour nous de l'enseignement supérieur de la recherche, hein, pour les Français.
Alors, John.
Oui, je dirais que tous les moyens sont là. On a des moyens législatifs. On peut, à l'avenir, envisager une approche plus unifiée vers les études universitaires. C'est déjà le cas pour plusieurs disciplines. En ce qui concerne la formation, on a des programmes qui sont en place qui permettent un échange ou bien des programmes de formation en commun. C'est vraiment, si vous voyez qu'il y a des lacunes, c'est vraiment aux associations qui vous représentent de se mettre ensemble et de faire des propositions au niveau communautaire, parce que les moyens financiers sont là, les moyens législatifs sont là. Donc, c'est vraiment une porte ouverte, je dirais. Et on reçoit tous les jours des réclamations des étudiants qui sont des gens qui profitent de ces programmes et qui nous identifient des difficultés avec la mise en œuvre de ces programmes. Donc, je vous invite cordialement de nous contacter. La porte est ouverte. Il y a une représentation de la communauté à Paris, mais vous pouvez aussi écrire directement à la commission et on va voir dans quels moyens on peut vous aider. Structurellement, c'est beaucoup plus compliqué, comme Bernard a dit. Il y a des intérêts, il y a des systèmes qui sont en place depuis des siècles. Donc, c'est assez difficile de faire bouger les systèmes d'éducation au niveau national, mais avec les programmes communautaires, avec les systèmes d'échange, les programmes de formation en commun, que nous avons aussi dans le domaine des maladies transmissibles, par exemple. Et notre agence à Stockholm organise un cursus de formation pour les épidémiologistes. C'est juste un exemple, mais il y en a plein. Pour le cancer, on est en train de lancer un système de formation commune pour les oncologistes. Donc, il y a façon de de se mettre un peu en dehors du système national et de créer quelque chose d'ensemble qui ne dérange pas le système national, si vous voulez.
Mais écoutez, Julien, je suis désolé, mais on arrive à la fin de cette session. Il est 9h59. On s'arrête à 10h. Vraiment, je voulais tous vous remercier de votre participation. C'était tout à fait passionnant. Ça nous fait une deuxième matinée consacrée à l'Europe de la santé qui est tout à fait positive. Je remercie tous les membres du think tank de l'Europe de la santé. Je remercie aussi mon équipe qui a passé un temps important à la préparation de ces manifestations. Et on continue demain donc, pour faire un bilan à mi-mandat justement de ce qu'on fait, de ce qu'a fait le Parlement européen en question de santé, en matière de santé. On parlera très certainement encore de la Covid. On aura Véronique Trier-Lenoir qui sera là. On parlera très certainement des rats. On parlera très certainement du plan contre le cancer, le plan européen contre le cancer. Et ce sont des sujets qui sont tout à fait passionnants. Donc, je vous donne rendez-vous demain matin à 8h30. John, vraiment merci de cette présence. Bernard également, Johan également. Martin, tu fais partie un peu des cadres du think tank. Donc, je te remercie pour ce dynamisme. Et puis, je crois qu'il y a encore beaucoup de travail à faire dans le think tank. J'ai noté 2-3 propositions à faire remonter. On est à vos côtés pour pouvoir les faire porter. Donc, n'hésitez pas. Mettons-les en forme et puis transmettons-les à qui de droit. Merci encore et très bonne journée à tous.